Ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire plusieurs versets. Le premier que nous lirons, vous le connaissez par cœur, c'est au chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième passage, c'est au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Troisième passage, au chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Amen. Seigneur, nous te louons parce que ta parole est là pour nous montrer effectivement tout ce que tu as accompli et réalisé en notre faveur. Et si nous n'étions conscients de l'œuvre parfaite qui a été accomplie par toi sur la croix, nous ne pourrions pas aujourd'hui nous réjouir de ce si grand salut dont nous sommes les bénéficiaires. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous voulons te dire, Seigneur, merci de ton amour, merci pour ta grâce, merci de ta fidélité, merci de nous avoir sauvés les uns et les autres. Mais maintenant aussi, nous réclamons de toi le secours de ton esprit pour nous aider à être des témoins efficaces pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous réclamons cela parce que nous sentons combien autour de nous les hommes et les femmes vont à la perdition et nous ne savons comment les arracher. Mais toi, Seigneur, tu nous as promis de venir à notre aide par le secours de ton esprit afin d'être auprès d'eux comme des canaux de bénédiction. Alors viens te saisir de nous et viens nous bénir afin que nous puissions être des témoins efficaces à la gloire de ton nom. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Probablement, vous avez constaté, en faisant la lecture avec moi, frères et sœurs, que dans ces trois passages que nous venons de lire dans la parole de Dieu, il y a un mot qui revient, c'est le mot « témoin ». Et je voudrais partager avec vous très simplement quelques pensées sur le rôle que le Seigneur nous a assigné afin que nous puissions être des témoins dans ce monde qui va à la dérive, qui va à la perdition. Et nous sentons tous combien nous avons besoin du secours de Dieu pour être, pour notre entourage, eh bien, ces canaux que nous souhaitons tous être, mais sans le secours de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous risquons de rester dans l'échec dans le domaine de l'évangélisation. Mais heureusement que Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse et va nous aider, nous secourir, afin que nous puissions continuer ce service à la gloire du Seigneur. Pour comprendre ce qu'est un témoin, nous allons commencer, je dirais, par aller ensemble, si vous le voulez bien, du moins en imagination, jusqu'à un tribunal. Et nous allons voir là, assis sur le fauteuil du président, un juge qui s'apprête à donner un verdict, à juger précisément un prisonnier qui se trouve juste en face de lui sur le banc des accusés. Alors, que va-t-il se passer pendant cette séance ? Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la partie civile qui va faire appel à des témoins. On appelle ces témoins-là des témoins à charge qui vont venir tout simplement exprimer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et ceci pour accabler, puisqu'ils font partie de la partie civile, le coupable présumé, et ainsi empêcher qu'il ne puisse trouver une pleine et totale liberté. Mais comme vous le savez, il y a aussi un défenseur, il y a un avocat, et lui va faire aussi appel à des témoins. Et ces témoins-là vont participer, agir, en disant aussi ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et ils vont s'exprimer dans quel but ? Tout simplement dans le but de permettre à cet homme d'être acquitté et de connaître une véritable liberté. Eh bien, la parole de Dieu nous permet en esprit de connaître aussi ce qui s'est passé dans le tribunal dans lequel se trouvait Pilate comme juge, et Jésus était l'accusé. Et la parole de Dieu met en relief que justement à ce tribunal-là, il y a eu la partie civile, et la partie civile, vous l'avez compris, elle est personnifiée dans Satan lui-même, qui a utilisé en quelque sorte les souverains sacrificateurs de l'époque, également certains gouverneurs et des faux témoins qui sont venus dire certaines choses qui ne concernaient absolument pas la vérité. Ils ont accusé le Seigneur, ils l'ont accablé, c'était des témoins à charge, je devrais dire plus exactement des faux témoins à charge. Mais cela était tellement évident que le juge a été surpris d'entendre toutes ces choses que ces faux témoins déclaraient. Et il s'est adressé au Seigneur Jésus, Pilate s'est adressé au Seigneur Jésus. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 13. Et s'adressant à Jésus, il lui dit « Mais n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et nous, nous pourrions nous attendre à ce moment-là, à voir le Seigneur Jésus réagir, parce qu'il y avait des faussetés. Il aurait pu se défendre, lui qui est la vérité. Mais justement parce qu'il est la vérité, il n'a pas besoin d'être défendu. Et d'ailleurs, il ne le fait même pas. Je me suis penché sur le texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et quand Pilate lui a dit « Cela, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Le verset suivant dit « Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » Mais, voyez-vous, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu un secours, qu'il n'y ait pas eu l'intervention d'un avocat. Direz-vous, en tous les cas, le texte biblique ne nous le dit pas. C'est vrai, Mais j'ai lu cet après-midi un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Je vais vous lire ce qui est dit dans le livre du prophète Ésaïe. Il est dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et un peu plus loin, puisqu'il s'agit prophétiquement du Messie, du Seigneur Jésus lui-même, il est dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Mais écoutez la suite. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. » Donc, il n'était pas sans secours. Mais où étaient les témoins? Je dirais les témoins physiques, les témoins humains, les disciples du Seigneur. Où étaient-ils pendant cette période où ils faisaient l'objet de telles accusations de choses ignominieuses? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit, nous le révèle, c'est bien triste. Les évangiles nous présentent le fait suivant, tous ont abandonné le Seigneur. Et ils se sont tous tenus à l'écart. Les témoins qui auraient pu rendre témoignage de choses qu'ils avaient vues, de choses qu'ils avaient entendues, parce que tous les disciples avaient vu les miracles, les prodiges que Jésus avait accomplis. Ils auraient pu être là pour dire, mais en tous les cas, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu est la preuve qu'il est vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. Non. Personne n'était là, personne ne l'a secouru. Seulement, nous savons que l'Esprit de Dieu était sur Christ. Et la Bible nous dit que le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et l'Esprit de Dieu n'a jamais abandonné et il était certainement présent. Mais il fallait que s'accomplisse ce que l'Écriture dit à son sujet. Ce qui me frappe, c'est que quelques mois après, et puis après aussi quelques années après, il y a un certain personnage, en l'occurrence c'est l'apôtre Pierre lui-même, qui va se dresser devant une foule pour dire certaines choses qui sont surprenantes. Et effectivement, quand Pierre s'est levé la première fois, comme nous l'avons lu dans le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, c'est au moment où il avait accompli, par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, accompagné de son collègue Jean, eh bien, un miracle, un prodige extraordinaire. La Bible nous dit que, justement, il y avait un boiteux qui se trouvait là à ce portique du temple et Pierre et Jean lui ont parlé avec une certaine autorité, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils lui ont dit « Allez, lève-toi et marche ». Et cet homme s'est levé et il est entré dans le temple bondissant de joie parce que Dieu venait de faire un miracle formidable, mais le fait d'avoir accompli cela a poussé les hommes religieux de l'époque dans une grande jalousie et ils ont suscité une opposition terrible au point même qu'ils ont dit « Nous ne voulons plus que vous annonciez dans le nom du Seigneur ». Et c'est là que Pierre a dit « Mais jugez vous-même s'il est normal que nous obéissions aux hommes plutôt qu'à Dieu. » Et Pierre a reconnu qu'il ne pouvait pas faire autrement que de dire, de proclamer ce que le Seigneur avait fait. Et il dit, c'est ça que je voulais souligner, et il dit, « Nous sommes les témoins de ces choses. » Alors je me suis arrêté en faisant cette lecture pour la énième fois, vous pouvez le comprendre, et je me suis dit, c'est curieux. Nous sommes les témoins de ces choses. Et j'ai envie de poser la question, où étaient-ils ? le jour où Jésus se trouvait devant Pilate. Où était-il? Nous, nous connaissons ce que dit l'Évangile. Et l'Évangile nous dit qu'il a essayé, quelque part, d'être un témoin. Mais il a été tellement maladroit et il a échoué tellement qu'il a fini par renier son maître. Quand il parlait avec cette fameuse servante, eh bien, c'est le contraire d'un témoin. Il a réussi, dans le fond, à renier son maître, ce qui l'a poussé dans une grande amertume. Et la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement parce qu'il s'est rendu compte de son échec dans ce sens. Lui qui aurait dû être un témoin efficace, là, il avait totalement échoué. Quelques années plus tard, il y a une nouvelle période difficile et Pierre et les apôtres se trouvent justement là en train de devoir également prendre la défense du Seigneur. Et il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et au verset 39, il reprend cette expression. Il dit, nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Deux fois, il répète cela, mais des années après, qu'il aurait dû être vraiment efficace au moment où Jésus se trouvait devant Pilate. Mes frères et sœurs, pourquoi vous avoir raconté ce que vous savez par cœur? Parce que vous connaissez l'Évangile aussi bien que moi. Mais pourquoi revenir sur ces faits-là? C'est parce que, comme moi certainement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ est dans le tribunal. Au tribunal de ce monde. Ah, il n'est plus devant Pilate, il n'est plus devant un Sanhédrin, mais il est au banc de l'opinion de ce monde. Et moi, chaque jour que j'entends les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles, chaque fois que je suis à l'écoute et que j'observe ce qui est dit au travers des masses médias, eh bien, je me rends compte que Jésus est au tribunal. Il y a des centaines de Pilates aujourd'hui pour accuser le Seigneur. Et le diable est toujours à l'œuvre pour produire des faux témoins. Et je suis surpris de voir que certains personnages, quelquefois des hauts dignitaires, des gens considérés comme tellement importants dans ce monde, qui se prennent pour des gens tellement intelligents, sont capables de dire des choses qui sont vraiment horribles, en pleine contradiction avec la vérité de Dieu, avec la parole de Dieu. Et non seulement il y a ces gens qui sont aujourd'hui très influents dans ce monde, qui mettent en évidence des choses qui sont en contradiction avec l'Écriture, avec ce qui est affirmé dans la Bible, mais je dirais, hélas, même certains soi-disant prédicateurs se trouvent être dans des positions contradictoires par rapport à la vérité de Dieu. Le Seigneur est aujourd'hui diffamé, ses enseignements sont mis en doute, la vérité que nous connaissons est bafouée dans ce monde et on essaie de la remplacer par des mensonges. Vous en êtes aussi conscient que moi, vous le savez, parce que tous les jours, nous sommes frappés par tout ce que nous pouvons entendre et voir. Alors, mes frères et sœurs, là, la voix du Seigneur se fait entendre. Et il dit, où sont les témoins? Où sont les témoins? L'Église, ou je devrais dire plutôt, la chrétienté. Parce que l'Église, pour moi, l'Église de Jésus-Christ, elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église de Jésus-Christ, elle est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Mais dans la chrétienté, devrais dire aussi, d'une manière générale, dans le christianisme, que rencontre-t-on ? Des hommes et des femmes qui sont dans des vases clos, dans des églises, ou du moins ce que l'on appelle des églises, qui recherchent encore quelque intérêt personnel à retirer un certain bénéfice pour eux-mêmes, soit peut-être sur le plan matériel, soit sur le plan physique. Vous savez, comme cette foule qui suivait le Seigneur en temps et qui, dans le fond, ne désirait qu'une seule chose, être au bénéfice de ce qu'il pouvait produire, notamment quand il multipliait le pain. Et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui suivent le Seigneur par intérêt, mais malheureusement, qui ne remplissent pas ce rôle authentique d'être des témoins. Ceci m'a amené à réfléchir, même pour moi-même, à me poser la question, mais comment les disciples finalement en sont arrivés quand même à accomplir la volonté de Dieu? Et toute la Bible rend le témoignage de ces hommes qui, quelquefois même, au prix de leur vie, n'ont pas eu honte du témoignage à rendre pour Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, après leur timidité, après leur échec, pour qu'ils aient été transformés de cette manière-là? Je sais, quelques-uns vont me dire, mais vous l'avez lu dans la parole de Dieu. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. C'est Jésus qui avait fait cette promesse. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Tout à l'heure, je poursuivrai dans ce verset. Vous serez mes témoins. Mais en attendant, il y a quelque chose qu'ils ont fait et qui m'a interpellé. Au début du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les chrétiens, les disciples du Seigneur, ont eu la possibilité de faire des expériences formidables avec le Christ ressuscité. Et il est dit que après sa résurrection, Jésus leur apparut plusieurs fois, et pendant ces 40 jours, presque tous les jours, ils ont eu le contact avec le Christ ressuscité. C'était déjà avant même de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et le fait qu'ils aient eu ce contact avec le Christ ressuscité, ça m'a interpellé. Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous avons tous, j'en suis persuadé, une haute estime, une haute opinion de ce que doivent être les moments que nous devons passer avec le Seigneur tous les jours. Cette communion que nous devons rechercher, ces moments où nous sommes directement en contact avec lui et où il a la possibilité de se révéler à notre cœur. Avant même de recevoir la puissance du Saint-Esprit, j'estime, et je ne crois pas me tromper en disant cela, que ces hommes ont dû être drôlement fortifiés chaque fois que pendant ces 40 jours, après la résurrection de Jésus, ils ont eu l'occasion de le revoir, de parler avec lui. J'aimerais m'arrêter un instant et vous interpeller sur ce point. Ne me répondez pas, frères et sœurs, mais c'est là, au fond de nous-mêmes, que nous devons répondre. Est-ce que vous rencontrez Jésus chaque jour? Est-ce que vous avez ce contact avec lui, personnel, tous les jours, dans ce moment de communion intime? Nous sommes tous conscients de l'importance de ce moment. Et pourtant, nous devons bien le reconnaître. Que de fois nous l'esquivons. Que de fois nous négligeons ce moment. Vous savez, la meilleure réunion que vous aurez ici-bas, sur la terre, ne se passera pas dans l'église, ça se passera dans votre maison, quand en contact avec lui, vous pouvez recevoir une nouvelle révélation de qui est le Seigneur. Je sais, nous sommes tous convertis. Je ne mets pas en doute notre expérience de base. Nous appartenons au Seigneur. Nous avons la vie éternelle. Je sais. Mais voyez-vous, le Seigneur, c'est chaque jour que nous pouvons avoir une nouvelle révélation. Une révélation plus grande. Entrer dans une plus grande intimité avec lui. Parce que dans le fond, il faut que sa glorieuse personne puisse nous pénétrer, nous imbiber. Parce que, en fait, il est la vérité. Et j'aimerais vous dire, comme Pilate qui se posait autrefois la question, mais qu'est-ce que la vérité? Dans ce monde qui est parfois dans l'hostilité, parfois dans l'indifférence, je dois vous dire, mes frères et sœurs, il y a aussi des hommes et des femmes qui cherchent la vérité, qui ont faim et soif de la vérité. Mais où vont-ils la trouver? Dans la philosophie, dans la science, dans la religion? Mais tout ça, c'est faux. Où vont-ils trouver la vérité? La vérité, ils vont la trouver en chacun d'entre nous. Quand Christ, vraiment, placé sur le trône de notre cœur, vivant en nous, intimement en nous, eh bien, le monde pourra le voir. Et moi, je prie le Seigneur pour que vraiment cela devienne une réalité pour moi. Je serai toujours dans l'échec en tant que témoin si je ne vis pas cela personnellement. Et nous avons besoin de vivre cela. Vraiment, quand nous sommes avec lui, eh bien, il y a une nouvelle révélation, une nouvelle facette de sa glorieuse personne qui va nous apparaître. Nous allons être imprégnés de cela. Vous savez, quand on est en contact avec lui, les autres peuvent le voir. Vous avez remarqué comment à un moment donné, il est dit dans la Bible au sujet de certains disciples, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire que le contact avec Jésus nous marque. Et il faut vraiment que nous ayons cette marque particulière pour que le monde se rende compte que nous ne sommes pas comme eux, que nous sommes différents, non pas supérieurs, parce que nous n'avons rien de plus que les autres, sauf Christ qui règne dans notre cœur et dans notre vie. Et quand Christ réellement règne dans notre cœur et dans notre vie, bien les autres peuvent le voir. Ils peuvent s'en rendre compte. Alors, je me dis, première préparation pour être vraiment un témoin efficace, c'est de vivre dans cette communion qui nous permet, en fait, d'avoir une révélation plus grande de qui est le Seigneur. En fait, je me suis posé la question, et voyez-vous, je vous livre cela tel que. C'est quelque chose qui est venu dans mon esprit. Est-ce que tu es capable de rendre témoignage de quelque chose de nouveau accompli par le Seigneur dans ta vie? Et vous savez, des fois quand on nous pose cette question, il faut rendre témoignage. Est-ce qu'il faut remonter à 10, 20 ans, 30 ans en arrière, une expérience faite il y a des mois ou des années en arrière? Dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que le Seigneur ne peut pas nous amener quotidiennement à faire des expériences concrètes avec lui, des choses qu'il est quelquefois même difficile d'expliquer, mais que nous ressentons au fond de notre cœur. Vous savez, il y a des fois où le Seigneur nous permet de toucher du doigt certaines réalités. Elles sont formidables. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand nous touchons du doigt certaines choses, eh bien, ça met notre esprit dans une joie profonde, véritable. Et la joie, elle doit se voir. Quand quelqu'un a la joie du Seigneur, eh bien, cela se manifeste, cela éclate, et cela est utile pour le témoignage. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous ne nous habituions pas à raconter des choses qui remontent à des mois ou des années en arrière, mais que le Seigneur fasse que tous les jours nous puissions vraiment goûter à certains bénéfices de sa grâce. C'est tous les jours, n'est-ce pas, que nous pouvons connaître certaines choses. Voilà pourquoi je dirais que c'est le premier point. Mais où? devons nous rendre témoignage. Actes des apôtres, nous l'avons lu, il est dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. D'abord, où ? À Jérusalem, dans toute la Judée, et puis en fait, jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, où ? Là où, finalement, les disciples connaissaient très bien l'esprit et la mentalité de ceux qui avaient amené Jésus à la croix. Là même, où eux-mêmes, s'ils voulaient être des témoins, risquaient leur vie. Et certains d'entre eux, c'est au péril de leur vie qu'ils ont rendu témoignage. Nous savons tous quelle est cette expression, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Nous sommes bien loin de connaître ce temps-là, bien que dans certains coins de ce monde, il y en a qui souffrent, et qui souffrent, nous ne pouvons même pas imaginer combien est grande leur souffrance, parce qu'ils veulent être et rester des témoins de Jésus-Christ. Mais pour nous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Finalement, c'est déjà dans un premier temps, là, autour de ceux qui nous entourent, près de ceux qui nous entourent. D'abord, bien sûr, la famille, c'est un fait certain. On en a déjà parlé d'autres fois, je ne vais pas y revenir. Peut-être aussi nos voisins. Mais j'ai remarqué, les disciples, là à Jérusalem, ça ne devait pas être trop facile de rendre ce témoignage. Et la deuxième condition, c'est de connaître celui auprès de qui on va rendre témoignage. De connaître le vrai problème. De connaître vraiment ce qui se passe dans sa vie, dans leur cœur, dans cette génération. Vous voyez, mes frères et sœurs, je crains que certains, à la recherche de la sanctification, et là, c'est bien, la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais attention, le fait de rechercher la sanctification ne fait pas de nous des petits saints que l'on place dans une niche et que personne ne doit toucher. Vous voyez, si nous sommes vraiment dans la sanctification, il faut que les autres puissent être au bénéfice de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et j'ai constaté un fait, pardonnez-moi de vous parler de cette manière-là. Certains se glorifient en disant, mais maintenant, moi, j'ai coupé les ponts avec mes amis d'autrefois. Certains nouveaux convertis, des fois, s'expriment en ces termes. Et ils disent, ah, maintenant que je connais le Seigneur, j'ai coupé le pont avec tous les amis d'autrefois. Je sais que ça va en sens inverse de ce que vous avez pu entendre quelquefois. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas de relation avec les gens de ce monde, comment allons-nous pouvoir les amener à Jésus-Christ ? Comment allons-nous pouvoir les amener à connaître ce que nous avons expérimenté auprès du Seigneur ? Ah, je suis saint, je me tiens à l'écart du monde. Tu es dans le monde. Tu n'appartiens pas au monde, mais tu es dans le monde. Nous avons un exemple. Cet exemple, c'est Jésus. Comment est-ce qu'on a parlé de Jésus ? Eh bien, son témoignage, puisqu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité, son témoignage est évident. Et qu'est-ce qu'on disait à son sujet ? Ah, l'ami des pécheurs. Évidemment, lui, il a été invité à des noces, il était présent aux noces, et il a changé l'eau en vin. Il a été présent au milieu d'une multitude qui n'avait pas d'autre but que des intérêts personnels. Pardonnez-moi cette expression, mais je le fais à dessein. Ne croyez pas que je veux être à tout prix trivial, mais finalement, il a partagé un pique-nique avec des milliers de personnes. Et il était là. Il y avait ceux qui l'aimaient. Il y avait ceux qui le haïssaient. Il y avait ceux qui étaient pour lui. Il y avait ceux qui étaient contre lui. Mais Jésus ne s'est pas soustrait parce que tous avaient besoin de recevoir un témoignage de la vérité. Il n'a pas hésité à parler avec certaines personnes peu dignes, peu recommandables. On a dit de lui, il est l'ami des péagers et des publicains. Ce à quoi il a répondu, mais ce sont précisément les malades qui ont besoin de médecins et non pas les autres. Alors évidemment, je comprends la crainte que certains serviteurs de Dieu, et moi-même y compris, j'ai souvent enseigné dans cette direction-là, en disant, mais attention, il faut éviter les mauvaises compagnies, parce que par ailleurs, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est vrai, tout cela est vrai, mais Jésus n'a pas été influencé par les gens de mauvaise vie. C'est lui qui a influencé ces gens-là dans la bonne direction. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que Christ demeure en nous, c'est pas nous qui allons être influencés par le mal. Mais nous pouvons avoir une influence sur eux pour qu'ils se rendent compte, ah, mais se trouvant dans les mêmes conditions que nous, il n'agit pas comme nous. Il se comporte pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Vous voyez, ça, c'est être témoin de Jésus-Christ. Et le maître nous donne un exemple dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle il peut ensuite enseigner et dire, vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Je voudrais me pencher, parce que je sais que vous connaissez bien cette histoire sans que nous ayons à la relire, sur le témoignage personnel que Jésus a eu auprès d'une personne. Parce que dans le fond, les uns et les autres, c'est souvent comme cela. Nous avons un contact avec une personne à la fois. La prédication, c'est une chose. L'évangéliste, c'est une chose. Il peut jeter comme cela un seau d'eau sur tout un auditoire et il peut propager l'évangile en espérant qu'un cœur sera réceptif. Mais finalement, la meilleure évangélisation, c'est celle qui est faite par les uns et les autres dans un contact personnel avec certaines personnes. Et il y a un modèle d'entretien personnel dans l'évangile de Jean au chapitre 4, je ne vais pas le lire avec vous parce que vous connaissez bien cette histoire, c'est le contact qu'il a eu avec la fameuse Samaritaine. Regardez, première chose que l'on remarque, c'est que c'est lui qui a cherché le contact. C'est lui. J'ai entendu souvent des chrétiens, et pour tout vous dire, même mon épouse rend un témoignage. Et à un moment donné, dans son témoignage, elle dit, le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, quand j'ai entendu, vraiment, après l'avoir entendu plusieurs fois, la prédication qui a touché mon cœur, c'est comme si, dans le fond, ce jour-là, je me rendais compte que même si j'avais été toute seule dans le monde, Jésus serait venu pour moi. Vous l'avez entendu ça plus d'une fois, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus, là, il avait un contact avec une personne. C'est comme s'il avait traversé depuis son trône de gloire jusqu'à cet endroit-là, cette terre particulière où il a rencontré la Samaritaine exprès pour elle. En tous les cas, l'Évangile nous dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Vous savez, il aurait pu éviter de passer par la Samarie. Il y avait un chemin plus court pour arriver là où il est allé. Mais il est quand même passé par là. Pourquoi? Parce que dans sa préscience, Jésus savait qu'il devait rencontrer cette femme-là. Et il est allé à son contact. Là, le Seigneur est intervenu. Bien sûr, c'est très surprenant parce que à cette époque et à cet endroit-là, bien, comme d'ailleurs le texte le souligne, c'est surprenant qu'un homme s'adresse à une femme pour lui demander de l'eau, comme il l'a fait. Sauf qu'il y a une loi dans ces pays-là, particuliers, qui donne la possibilité à un homme le dos tourné. Vous vous rendez compte, j'ai lu cela, ça m'a un peu amusé. Le dos tourné, s'il y a un groupe de femmes là, derrière, de dire « j'ai soif », en espérant qu'il y en a une qui va se détacher et qui va venir lui apporter à boire. Mais lui, il n'avait pas le dos tourné. Hein. Lui, il a regardé cette femme en face et il lui a dit « donne-moi à boire ». Pourquoi a-t-il fait cela ? D'abord, pour établir un premier contact, mais ensuite, et ça me paraît très important, pour susciter en elle une sorte de curiosité. Jésus excite sa curiosité, comment ? Eh bien, nous avons la réponse dans la manière dont elle va parler au Seigneur. Comment ? Comment toi qui es juif, demandes-tu de l'eau à moi ? Qui suis une Samaritaine. Elle a senti quand même quelque chose. Elle a senti dans son cœur que Jésus s'intéressait à elle. Et le Seigneur, après avoir suscité la curiosité, eh bien, va déclencher une sorte de déclic, va faire qu'il y ait un déclic dans son cœur. Vous remarquerez une chose. Mes frères et sœurs, en s'approchant de quelqu'un à qui on veut rendre témoignage, attention de ne pas venir toujours en donneur de leçons, et particulièrement en essayant d'assommer à coups de versets bibliques l'autre. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne sera pas toujours très bien impressionné par une démonstration de connaissance de l'Évangile ou de la vérité. Première chose qu'il faut faire, c'est établir un contact, susciter une curiosité, pour que les personnes elles-mêmes, eh bien, puissent non pas être assommées par quelqu'un qui vient à coup de biblique, et de versets bibliques, essayer de la convaincre. Vous savez, mes frères et sœurs, jamais aucun d'entre nous ne pourra remplacer le ministère du Saint-Esprit. S'il y en a un qui a le pouvoir de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il est venu pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Troisièmement, vous voyez, il a une communication avec cette femme. Jésus fit doucement passer la femme dans le domaine matériel au domaine spirituel. Et comment il l'a fait ? Eh bien, il lui a simplement dit, quiconque boit de cette eau que tu es venu chercher, il aura encore soif. Vous avez vu un petit peu cette manière d'agir. Mais si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais plus soif. Alors, cette femme-là, elle est maintenant piquée au vif, il n'y a pas seulement que la curiosité, mais elle sent qu'il y a quelque chose là d'important. Et bien sûr, il y a une conviction qui va naître dans son cœur. Et cette conviction, ce n'est pas le Seigneur qui l'a forcée. Il n'a même pas abordé la question du péché directement. Vous savez, comme certains chrétiens, qui, lorsqu'ils sont en contact avec une personne, vont lui dire, première chose, tu es un pécheur. Ah ben ça c'est bien, hein. On attire les mouches avec le vinaigre. Hein. C'est pas comme ça. Évidemment, si on finit par les assommer en leur disant certaines choses de cette manière-là, je ne parle pas de la prédication, parce que nous ne devons pas non plus être indulgents avec le péché. Jésus n'est pas indulgent avec le péché, mais Jésus ne condamne jamais le pécheur. Et là, cette femme l'a ressenti. Et pour l'amener sur le terrain de la conviction, eh bien, comment il l'a fait ? Il savait tout de cette femme, dans sa préscience. D'ailleurs, la Bible le dit, on n'a pas besoin de lui rendre témoignage de qui que ce soit, parce qu'il sait parfaitement tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il savait très bien que cette femme était une femme pécheresse. Il savait très bien qu'elle avait eu plusieurs maris. Il savait très bien que c'était une femme dissolue. Mais la seule chose qu'il dit, c'est, eh bien, va chercher ton mari. Et c'est là qu'elle a été obligée de dire la vérité. Et vous savez, pour quelqu'un qui est pécheur et qui sait qu'il est en contradiction avec la loi de Dieu, quand finalement l'Esprit de Dieu a mis le doigt sur certaines choses de son existence, c'est pas évident de parler de son péché. Et quand quelqu'un le fait, il le fait toujours avec une certaine honte. Il y a de la honte. Et le Seigneur n'a pas voulu susciter la honte dans le cœur de cette femme. Il dit, tu as bien fait de me répondre, parce que vous savez quelle a été la réponse de la femme, que tu n'as pas de mari, car en réalité, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Vous voyez, il n'a pas, en quelque sorte, condamné, il l'a simplement accompagné, il lui a simplement mis le doigt sur le péché de sa vie, et quand ça se passe, alors on voit la personne concernée qui est en train de tituber. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut l'entraîner sur le terrain de la religion. Et elle dit, nous les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim. Vous dites que c'est à Jérusalem. Vous voyez, elle essaie de détourner un petit peu la conversation. Mais Jésus ne la suit pas sur ce terrain-là. Vous savez ce que fait Jésus? Il veut l'amener à comprendre qui il est, lui. Parce que quand elle aura compris qui il est, lui, la question de la religion passera au second plan, disparaîtra. Et d'ailleurs, il a parfaitement réussi. Parce que quand finalement, il lui révèle « Celui qui te parle, c'est lui le Messie », d'un seul coup, cette femme est transformée. Elle part à toute vitesse. Elle va dire à tout le monde, « Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai trouvé le Messie. » Vous savez, mes frères et sœurs, je serais vraiment très heureux que les chrétiens ne parlent plus de leur dénomination, ne parlent plus en disant « Je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je fais partie des assemblées de Dieu, je fais partie de telle église. » Mais laissez tomber ça. Quelle est la relation que tu as avec le Messie? Quelle est la relation que tu as avec le Christ? Qu'est-ce que nous devons présenter? Un système ou la personne vivante de Jésus? Et quand nous présentons la personne vivante de Jésus et que les âmes entrent en contact avec lui, eh bien la partie est gagnée. Et je vous assure qu'il ne faut pas essayer d'aider le Saint-Esprit. Parce que quand il commence une œuvre, Dieu est fidèle et il la rendra parfaite. Souvenez-vous comment il agit avec nous. Vous savez, c'est petit à petit que la révélation s'est faite et puis nous en sommes arrivés à tout simplement réaliser que notre tout, c'est lui. Aujourd'hui, je suis pleinement satisfait en Jésus et je sais que vous aussi. Alors, ne présentons pas autre chose. Par notre vie, par nos paroles, par nos actions, présentons Christ. Et quand nous annonçons l'Évangile, présentons Christ, qui est le centre même de l'Évangile. Présentons la croix, et puis le reste, ça appartient à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai soif que nous puissions être efficaces dans le témoignage. Vous ici et moi ailleurs, quelque part ailleurs, peu importe, mais que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de la vie de tous ceux qui lui appartiennent. Nous allons consacrer un moment à prier le Seigneur.